Salut les marqués smart et bienvenue dans ce Talking Catch épisode 4, votre nouveau podcast sur les news du catch. Chaque semaine, on vous parle de la WWE et quelquefois des autres divisions de catch. Je suis accompagné une nouvelle fois aujourd'hui par Monsieur Ringside.
Salut les amis.
Voilà. Et j'ai d'abord une grosse correction à faire sur une grosse connerie que j'ai dit dans le Talking Catch précédent sur la venue de l'Undertaker à SmackDown. J'ai dit qu'il allait venir le 8 novembre. Donc bien sûr, quand vous entendrez ce podcast, ce ne sera plus le 8 novembre parce qu'on l'enregistre après. C'était le 15 en fait. C'est le 15 novembre qu'il passe à SmackDown, monsieur l'Undertaker, au 900e épisode. Tu me confirmes, Ringside, que je me regourre pas encore?
Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. Mais de toute façon, les remarques qu'on a faites, les analyses sont quand même valables.
Voilà.
Une semaine d'écart, c'est pas bien grave. Hein. C'est une histoire de date, c'est tout.
Voilà. Mais c'est important d'être précis. Hein. On n'est pas payé, mais on essaye d'être professionnel. Enfin
c'est
bref. Donc comme d'habitude, hein, on va vous donner un peu les news les plus importantes de la semaine. Vous dire. Quelquefois, si c'est smart ou trash, on essaie d'utiliser ce principe, mais en fait, on se rend compte que quelquefois, c'est pas facile. Et donc voilà, n'hésitez pas en commentaire après à nous dire votre avis sur les news, etc. et vos hypothèses sur les rumeurs et tout ça. On va commencer avec la première news qui est. Celle que à propos de la WWE, donc dans le Wrestling Observer, la newsletter, on apprend que, enfin, ou du moins on entend qu'il y a une rumeur sur un nombre de pay-per-view pour 2017 qui serait réduit par la WWE. Ils sont en pleine réflexion pour savoir quel pay-per-view ils vont enlever, hein. On rappelle que du coup depuis le brand split, séparation de SmackDown et Raw au niveau des rosters, on avait un pay-per-view par roster tous les mois environ. Donc du coup, ça fait un pay-per-view toutes les deux semaines, sauf les mois où il y avait le gros pay-per-view comme SummerSlam mince, l'autre m'échappe. Bah là, il y a Survivor Series.
Survivor Series, Royal Rumble ou
voilà.
Mania.
Voilà. Donc, pour rappel, en 2016, la WWE a organisé 15 pay-per-view télévisés, mais aussi 5 pay-per-view exclusifs au network, donc les pay-per-view spécifiques à SmackDown et Raw. Donc, 20 pay-per-view dans l'année. Est-ce que cette réduction du nombre de pay-per-view, pour toi, c'est une bonne nouvelle ou finalement, ils nous avaient prouvé ces derniers mois que ça peut être intéressant d'avoir...
Dans l'absolu, c'est une bonne nouvelle, hein, je pense, parce que de toute façon, il vaut mieux privilégier la qualité à la quantité. Alors, les derniers pay-per-view étaient loin d'être mauvais quand même, mais je pense que c'est vraiment préférable qu'il y en ait moins que ce qu'ils proposent actuellement, parce que à terme, ça aurait forcément donné quelque chose de beaucoup moins bien que ce qu'on peut avoir avec un pay-per-view par mois. Je pense que c'est le bon rythme. Ça fait déjà beaucoup.
Alors, j'avais envie de pousser le truc un peu plus loin, genre qu'on dise chacun quels sont les avantages, allez, les top 3 avantages et inconvénients de ces pay-per-view de brand spécifique à SmackDown et Raw. Parce que je vois du pour et du contre. Hein. Mais vas-y, commence d'abord, donne tes 3 plus et tes 3 moins.
Bon, pour ce qui est des weekly, c'est bien parce que ça force à avoir de rosters différents, donc ça donne déjà de l'intérêt à SmackDown qui avait plus du tout d'intérêt depuis quelques années. Ça donne des opportunités à des athlètes qui n'en auraient pas sinon, tout simplement. Et puis sinon, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre?
Je parle vraiment des pay-per-view, hein, pas de la brand split en général, juste le fait d'avoir des pay-per-view spécifiques. Est-ce que
ça rentabilise l'abonnement au network, hein. quelque part.
Mmh.
Parce que finalement, pour le même prix, t'as une double ration de ce que t'aurais dû avoir en temps normal.
Du rab à la cantoche.
Du rab à la cantoche, c'est ça. Maintenant, moi je préfère qu'ils investissent dans des projets plus originaux quand même qu'une surabondance de pay-per-view. Parce que ça, dans les mois, clairement, t'as une surexposition des athlètes aussi. T'en as qui vont profiter un petit peu du truc pour avoir un peu plus de spotlight. Mais après, est-ce que c'est des personnes qui méritent vraiment d'être dans le spotlight, et est-ce que c'est des gens qui ont un potentiel pour être des money makers, quoi?
Au moins, on leur laisse. Ils ont normalement la place pour le devenir. S'ils ne le deviennent pas, c'est que. Soit il y a des bookers qui les détestent vraiment, genre Apollo Crews, c'est que voilà, ils n'ont pas la volonté, ils n'ont pas le charisme, ils n'ont pas le courage de dépasser un peu ce qu'on leur donne aussi.
Ouais, mais après t'as pas de secret, c'est souvent ça, hein, pourquoi il y en a qui percent pas, pourquoi il y en a qui arrivent pas à exploser le plafond de verre, comme on dit, c'est qu'ils ont pas forcément les qualités pour. Tu le vois avec prends Damien Sandow par exemple. Il était super populaire, tout le monde disait qu'il était sous-exploité. Là, il fait le passage à la TNA, on voit bien que derrière, au final, il n'y a pas grand-chose. Hein. S'il n'a pas été beaucoup plus loin à la WWE, c'est parce que clairement, il n'avait pas grand-chose à sortir de plus que ce qu'il a sorti pendant sa période à la WWE. Clairement, des fois, on se fait des idées sur des catcheurs, tu vois, genre Apollo Crews. Effectivement, il a d'énormes qualités techniques, il est impressionnant dans le ring, mais alors après, est-ce qu'il a de la personnalité? Est-ce qu'il a
Bah, ce qui est toujours difficile à juger de l'extérieur comme ça. En plus, nous on n'est même pas, comment on n'est même pas, ne serait-ce que dans le milieu des journalistes de catch ou des choses comme ça. Donc eux, ils savent un peu plus ce qui se passe backstage. Mais ce qui est difficile à juger à chaque fois, c'est savoir si est-ce que c'est il y a besoin de quelqu'un pour orienter un catcheur. Et à partir de ce moment-là, si l'orientation est bonne, ça part bien. Ou alors, est-ce que le rôle, est-ce que toute la responsabilité de dépasser ce statut de superstar efficace repose sur le catcheur directement? Ou alors, est-ce que finalement, c'est ouais, enfin, à qui incombe la responsabilité en général du succès ou non succès ou même de la stagnation. Mais donc du coup, vu que tu n'as pas répondu à mon top 3 toi, ou flop 3, et ben je vais faire le mien.
Vas-y.
Donc pour les pay-per-view de Brand, le top 3 des avantages d'abord. L'avantage pour moi, c'est déjà que on a des enjeux très régulièrement. Et que on n'est pas, contrairement à avant la séparation des brands, on a un peu freiné sur les rivalités qui stagnent. Encore que sur Raw, ils y arrivent pas parce que leur show est trop long. Mais au moins à SmackDown, on voit que les rivalités, elles s'installent, elles sont racontées, il se passe quelque chose toutes les semaines quasiment. Enfin, à part quelques fois, SmackDown retombe un petit peu. Mais sinon, il se passe quelque chose toutes les semaines, ça avance, et ça dure pas assez longtemps pour qu'on arrive à l'épisode où il se passe rien, quoi. C'est-à-dire qu'il y a juste assez de temps entre deux pay-per-view pour monter une rivalité et pour qu'elle soit déjà prête pour le pay-per-view, je trouve. C'est vraiment quelque chose que j'aime bien et qui fait que du coup, on n'est pas en train de se dire. Ah mince, le pay-per-view il est encore dans 2 ou 3 semaines et on a déjà l'histoire est déjà racontée en fait. Ils vont juste reblablater la semaine d'après, ressortir les mêmes promos ou des choses comme ça. Alors ça c'est quelque chose qui n'arrive pas à SmackDown mais qui arrive à Raw. Je saurais pas vraiment l'expliquer mais je trouve en tout cas que l'idée de timing plus serré est une bonne idée.
Alors après ça, je pense que ça fonctionnera bien là sur les 6 premiers mois, la première année. Après, ça risque d'être un peu juste. Je pense qu'ils vont finir par tourner en rond. Il faudra qu'ils remélangent un peu les rosters. De toute façon, bon, ça c'est possible aussi, hein, de toute
C'est
façon.
vrai que ça
Mais
accélère le. Du coup, ça réduit la durée de vie justement des rivalités, à moins d'être créatif et de réussir à la tenir sur plusieurs pay-per-view. Mais c'est vrai que ça réduit le. Enfin, du coup, ça oblige à faire des rivalités plus nombreuses avec des rosters qui sont. Enfin, du coup, des rosters réduits, puisqu'ils sont divisés en deux. Donc c'est sûr que ça ça fait partie des points peut-être négatifs. Dans les avantages aussi, bah bien sûr, ouais, il y a le network, il y a le fait que comment on a ces shows exclusifs. Avant on avait NXT qui était un petit peu le show pour les gens du, enfin TakeOver qui était un petit peu le show qui rassemble la communauté hardcore, on va dire, des fans de catch. Et maintenant on avait voilà ces pay-per-view spéciaux. J'aurais presque mis dans les positifs aussi. Alors le troisième ça aurait été la durée aussi des pay-per-view, mais on a un truc très aléatoire en fait. Il n'y a pas vraiment de schéma. On a eu SmackDown qui a fait c'était quel pay-per-view? C'était non, pas Roadblock. Le premier pay-per-view de SmackDown.
Je ne sais, non merci, non, c'était pas
Non,
ça,
peut-être
non,
que c'était avant. Enfin, bref, le premier pay-per-view de SmackDown, il était plus court. Il était vraiment quelque chose comme 2 heures et quelques. Et j'avais trouvé ça vraiment bien. Et je me disais justement. C'est bien qu'ils fassent du coup des pay-per-view à temps réduit, et que finalement le gros soir, le soir du SummerSlam et machin, etc., que ça soit vraiment un soir spécial où là, oui, ok, tu vas te taper, je sais pas, 4 heures, etc., mais que ça soit pas genre chaque mois un pay-per-view qui dure 3 heures et quelques, etc. Qui pour moi, ouais, pour moi, ça fait trop long, et c'est aussi pour ça que les pay-per-view d'NXT sont populaires, outre la qualité des matchs. C'est aussi parce que on n'a pas le temps de s'ennuyer, quoi. Il n'y a pas
Bah, tu vois,
de.
ouais, sur NXT, t'as plutôt un très bon timing, hein, parce que t'as les shows qui font 1 heure, et les pay-per-view, tu les as, c'est quoi, une fois tous les 3 mois à peu près. Donc forcément, comme les shows sont réduits, bah t'as pas vraiment le temps de t'ennuyer dans les shows weekly. Et effectivement, quand t'as un événement, c'est un événement pour le coup, et c'est là que t'as vraiment les gros matchs qui font plaisir à voir. Donc ça, c'est sûr que le timing NXT, il est à peu près parfait, hein. Si tu veux avoir un produit qui reste comment dire, percutant à chaque fois, quoi.
Mais sinon, ce qu'ils pourraient faire, du coup, s'ils veulent réduire, mais ils disent réduire, hein, pas supprimer, donc du coup, ça serait faire un mois un pay-per-view commun. Le mois d'après, le pay-per-view d'une des deux brands, encore un pay-per-view commun, l'autre, enfin le pay-per-view spécifique à l'autre brand, celui d'après, donc ça sera un peu plus respirable.
Ouais, bah c'est à peu près comme ils disaient à l'époque de la première division des brands, quand tu avais un mois un pay-per-view SmackDown, un mois un pay-per-view Raw, et puis tu avais toujours le mix pour les quatre gros pay-per-view. Ça fonctionnait plutôt bien, hein, à l'époque, hein. Maintenant voilà, faut qu'il dans l'absolu vaut mieux qu'ils t'en fassent pas trop, je pense.
On va passer à la deuxième news. C'est une news un peu chamaillerie, un peu dans les couloirs de la WWE. Puisque c'est Chris Jericho et Sin Cara qui se sont apparemment chamaillés en arrivant en Europe la semaine dernière. Parce qu'ils sont en pleine tournée européenne, hein, on vous en parlait dans le dernier catch-up. Moi-même et Ringside, on va voir la WWE. Moi, je vais au show de Lyon, donc c'est cet après-midi, hein, le jour où on enregistre le vendredi. Et puis Ringside ce samedi, donc on vous en parlera. On n'a pas encore décidé si on fera un show particulier. D'ailleurs, n'hésitez pas dans les commentaires si vous voulez vraiment. Une review de nos shows live dans un seul show là, si on fait un bon 40 minutes ou voire plus, pour pour vous raconter tout ça. Mais donc voilà, on y sera. Et je vais essayer d'enregistrer un petit peu de son. Bref. Donc d'après Fightful.com, qui a contacté des insiders de la WWE, Sin Cara aurait été insupportable. Alors on ne sait pas exactement comment, mais insupportable avec, avec ses camarades de bus. Et donc Jericho, outré par son comportement, l'aurait provoqué, hein, parce que Jericho, là, il n'aime pas les gens qui manquent de respect. Il lui aurait quasiment demandé de le frapper, un peu, un peu en mimant finalement Brock Lesnar. Lors de sa dernière rencontre, Jericho avait rencontré aussi Brock Lesnar à la fin de SummerSlam, mais cette fois-ci c'était Lesnar qui lui demandait de le frapper. Enfin bref, donc Sin Cara s'est pas fait prier, hein, il lui a foutu un pain. Apparemment Jericho est tombé par terre et puis ça s'est arrêté là. Sin Cara a été donc du coup banni hein, du bus. La preuve de tout ce que je vous raconte, hein, c'est que c'est pas seulement des rumeurs, c'est cette petite vidéo sur Instagram de Chris Jericho, très bizarre, hein, très passif-agressif, où il est dans sa salle de bain, c'est le soir de Raw à Glasgow, hein, juste après le show, il est rentré à son hôtel. Il dit qu'il va aller regarder le prochain épisode, enfin le dernier épisode de Walking Dead, hein, avant d'aller se coucher. Et il monte du sel de bain et il dit j'ai toujours rêvé d'être un zombie et si je mange ça, je me transformerai en zombie et je pourrai arracher la peau de quelqu'un et ce sera socialement acceptable. Ne vous étonnez pas si vous voyez dans les news, Jericho a arraché la peau de quelqu'un, c'est un zombie maintenant.
D'accord.
Donc voilà, non mais ouais, c'est très spécial. Sin Cara a reçu aussi le conseil par des officiels de la WWE de prendre des cours de anger management hein, pour contrôler ses nerfs. Voilà, je vous rappelle que Sin Cara a eu une altercation avec Simon Gotch, un des vaudevillains, en juillet dernier. Et Jericho, lui, quant à lui, c'était avec Lesnar juste après, donc SummerSlam, comme je vous ai dit. Alors, ma question complètement débile, qui est le plus dingue, Jericho ou Sin Cara?
Je mettrais ma piécette sur Jericho, hein. Moi, je
Ah
suis.
oui, je mise Jericho aussi. Après la vidéo que j'ai vue, hein, n'hésitez pas à aller sur son Instagram, mais c'est spécial, hein.
Ouais.
On sent que le gars.
Mais un voyage en bus entre 4 heures comme ça doit être une expérience assez spéciale, hein, quand même. Je pense que ça doit envoyer du lourd, même si c'est plus les personnalités qu'on avait à l'époque dans les années 80, etc. Ils sont un peu plus rangés des voitures, ou je sais pas comment on dit. Ouais, non, bah ça sent la vieille altercation virile. Le petit coup de trop dans les carreaux, et puis visiblement Jericho il aime bien hein, faire des petites bagarres backstage.
J'ai l'impression que c'est un petit peu le coq, comment on appelle ça? C'est celui qui vient et qui veut rétablir l'ordre ou machin etc. Mais il a jamais les couilles. Enfin, je veux dire, Lesnar, il a pas tenté de le frapper. Là, c'est pareil. Apparemment, il l'a provoqué. Il s'est pris une mandale.
Bah ça m'étonnerait pas aussi que Jericho il fasse ça pour avoir quelque chose à raconter dans ses bouquins hein, vu qu'il fait à chaque fois ses biographies, je crois qu'il y en a une qui est en cours, voilà, comme ça il racontera la fois où il s'est battu avec Brock Lesnar, il s'était déjà battu avec Goldberg, donc ça avait fait un gros chapitre dans sa biographie. Je pense qu'il est assez malin pour provoquer des trucs comme ça, sachant que lui il risque pas grand-chose hein, au final. Vu que c'est toujours l'autre qui frappe en premier, lui il a juste la grande gueule, et puis là celui qui risque gros c'est Sin Cara dans l'histoire. C'est déjà étonnant qu'il l'ait gardé, ça fait la deuxième
Ouais.
bagarre qu'il fait. C'est pas quelqu'un qui est indispensable, hein, Sin Cara au roster. Puis il devrait y avoir un petit peu de tension raciste dans tout ça, je pense, histoire
sais pas.
de rendre
Ah,
ça un
quoique,
peu
attends,
plus.
est-ce que non, les élections c'était mardi. Non, il n'y avait pas encore
Ouais, c'était en plein dans la soirée des élections, je crois. Non, c'était mardi le truc. Ouais, bah ouais. Ouais, c'était lui, c'était la veille, du coup. Mais la grande question, c'est de savoir comment Sin Cara est arrivé au show, parce qu'il a été viré du bus.
Ah, je sais pas,
Il a fait du stop,
il a pris
ou.
sa trottinette, je sais pas.
Son petit vélo qu'il avait dans le temps.
Son petit vélo. Ah bah oui, en tant qu'unico. Bref, donc voilà, c'était votre petite news chamaillerie de la semaine. C'est le moment d'un nouveau segment, attention. C'est un segment qui va être très court, mais j'ai décidé d'en faire un segment. c'est le mini-info, les mini-infos dont tout le monde se fout. Rhino, de son vrai nom Terrence Guerin, a perdu son élection dans le 15e district du Michigan, où il tentait d'être représentant de l'État du Parti républicain. Il a eu 35% des suffrages contre donc 65% pour Abdullah Hamoud, le démocrate. Et j'ai noté qui a dit que l'Amérique était raciste, finalement.
Bah oui, bah voilà, un exemple précis.
Donc voilà. Et la deuxième mini-info, c'est Ryback. Et oui, Ryback, il est toujours vivant. Et il sortira une ligne de substituts et autres produits de nutrition pour bodybuilder en décembre. Et ça s'appelle, tenez-vous bien, Feed Me More.
N'en achetez surtout pas. À éviter absolument.
C'est des recettes faites par Ryback, attention. Hein. Il a juste demandé, en interview, il disait « J'ai juste demandé des conseils pour qu'on rajoute du goût à ces poudres-là. » Et donc, ce sera disponible pour tous les bodybuilders qui nous écoutent sur feedmemore.com. F-E-E-D-M-E-M-O-R-E.com. Voilà. Achetez-en. Peut-être qu'un jour Ryback vous en verra une photo dédicacée. Passons à la troisième news. C'est Sasha Banks qui a été en interview chez Sam Roberts, dans le podcast de Sam Roberts, hein, qui est plutôt connu dans le milieu, parce que c'est un des rares mecs qui a vraiment des connexions avec la WWE et tape des interviews de 1 heure avec des superstars qui sont en ce moment dans le roster. Et donc, elle parlait du roster féminin en disant « C'est une bonne chose qu'on soit séparés en deux brands, car on a plus d'opportunités, mais je me bats contre les mêmes catcheuses chaque semaine, et nous ne sommes que 6, et c'est l'aspect le plus négatif, on a besoin de nouvelles têtes. » Elle a aussi rajouté que Vince McMahon lui faisait peur et que c'est Triple H qu'elle considère comme son mentor. Mais revenons d'abord sur ce souci des filles. Est-ce que pour toi, il y a un manque de stars féminines à Raw, ou plutôt, est-ce qu'elles ont vraiment besoin maintenant de nouvelles stars féminines à Raw? Et est-ce que c'était une erreur de les répartir sur deux shows? Est-ce que tu penses que finalement n'aurait pas été mieux à garder toutes les femmes sur un show?
Moi, je trouve que ça fonctionne plutôt bien à Raw pour l'instant, les filles. À SmackDown, c'est sûr que c'est un petit peu plus difficile pour avoir des beaux matchs. Ouais, ça leur ferait pas de mal d'avoir un peu plus de filles dans le roster, mais... ce qui est en haut de l'affiche à Monday Night Raw, c'est quand même de la bonne qualité. Il y a encore de quoi faire avec Bayley et compagnie. Je pense qu'il y a quelques mois là, où elles peuvent.
Je crois que c'est un peu facile que tu dises compagnie là. C'est qui la compagnie là, derrière Bayley?
Bah il y a Jax.
Oui, ouais.
Puis mais je pense que Bayley, elle peut faire le show pendant longtemps. Hein. Il suffit de ramener. Une unité de guest star comme ça pour une rivalité et puis de faire partir la personne, c'est pas grave. Mais après il y a des gens à NXT, hein, tu peux faire monter Asuka et compagnie. C'est toujours le même problème, c'est un peu le même problème que t'as chez les mecs, hein, c'est-à-dire qu'ils gardent des gens à NXT, tu sais pas trop pourquoi. Si vraiment ils ont besoin de monde, voilà, c'est vite réglé, hein, le problème.
Moi je pense côté mec, c'est pas exactement, enfin, je pense que le problème, c'est plus des mecs qui sont bons au micro, qu'ils ont du mal à avoir, parce qu'il y a énormément, enfin je veux dire côté mec, il y a un roster qui est quand même super conséquent. C'est juste que il y en a pas qui se démarquent, et les seuls qui se démarquent, ils les mettent dans la même feude, ils les répartissent pas. Donc du coup on a Owens, Rollins, Jericho. Qui d'autre? Roman Reigns. Reigns est pas fantastique au micro, mais il se tient, quoi.
Ouais, mais après t'enlèves cela.
Voilà, ouais.
Le roster il est un peu sec, quoi. Mais bon, on est là pour parler des filles.
Ouais.
Ouais, c'est sûr que dans l'absolu, s'ils avaient pas divisé le truc, ça aurait été pas mal aussi. Mais du moment qu'il n'y a pas la ceinture en jeu, est-ce que c'est vraiment intéressant de voir des rivalités entre les filles, vu comment ils les traitent généralement? Et puis elle va trouver des gens qui ont les, enfin des athlètes féminines qui ont les qualités de Sacha Banks, Charlotte, Bayley.
Bah on
Même
a,
pour moi, Becky Lynch, elle est un petit peu en dessous. Et puis le reste, voilà, c'est clairement en dessous. Donc c'est
on a un vague espoir avec le retour de Emma, mais
Si tu veux garder des trucs qui ont de la qualité main event comme ils ont eu là à Hell in a Cell, t'as pas beaucoup de candidates non plus, hein.
pour moi, je sais, je sais. Nia Jax c'est pas encore et pas encore top niveau, enfin meilleur de ce qu'elle peut faire, je pense. Mais si on prend Sasha Banks, Charlotte, Bayley, Nia Jax et Emma, on peut faire deux rivalités avec avec tout ça, deux rivalités vraiment valables. Après tout, on est bien en train de suivre, c'est pas une rivalité énorme, mais on est bien en train de suivre une deuxième rivalité à SmackDown avec Nikki Bella et Carmella. Qui sont pas en train de chercher la ceinture, et c'est dans un show qui dure 2 tiers de Raw, ou voire la moitié.
Ouais, tu peux faire de toute façon des trucs assez courts qui sont efficaces, hein,
Mais ouais, donc du coup, là-dessus, je serais plutôt ouais, mitigé en fait, dans le sens où je pense que surtout ils mettent trop de temps. Ils ont mis trop de temps à builder Nia Jax, genre à la laisser de côté, sûrement parce qu'ils avaient pas, enfin ils avaient pas d'idée pour elle, ils avaient mis toutes les filles dans le même panier. Donc Nia Jax, elle a pas encore, pas encore sa place, elle a pas encore eu de feud, elle va pas en avoir avant quelques semaines parce qu'il y a Survivor Series. Emmalina, là, j'en peux plus, genre, mais montrez-la quoi. C'est pas comme si elle était, elle s'est pas, comment, elle est pas blessée pendant un an. Emma, elle avait une blessure pendant un temps, mais là, le teasing dure trop longtemps. D'ailleurs, en général, je trouve que leur teasing, enfin, souvent le teasing des Cruiserweight a duré bien trop longtemps. Le teasing de Emmalina dure bien trop longtemps. Faut qu'ils arrêtent avec ça.
Ouais, et l'autre à SmackDown, là, comment il s'appelle?
Curtis Axel, Kurt Hawkins, Kurt
Kurt
Hawkins,
Hawkins, tout ça
le même
pour rien du
destin,
tout.
deux
Ouais.
hommes, un même destin.
Plus le teasing est long, moins t'as d'impact quand t'arrives dans le roster. C'est marrant, ça, quand
On
même.
lui a quand même offert une victoire pour son arrivée sur Apollo Crews, mais je pense que ça sera la seule qu'on lui donnera. Avant très longtemps, avant qu'ils partent en tag team avec d'autres losers.
Ouais, ou un bon séjour à Superstar.
On est
Ils sont rien
méchants.
là-bas.
Allez, passons à la quatrième news qui est à propos de Brie Bella, qui était en interview avec Sky Sport, la chaîne et le site web anglais. Elle a parlé donc forcément de Daniel Bryan et de sa difficulté de rester à son poste de general manager, car il veut toujours encore continuer, enfin oh là là, j'arrive plus à parler, il veut toujours remonter sur le ring, et donc ça c'est quelque chose que normalement vous savez, parce que c'est même lui le répète quand il est en interview. Mais ce que vous ne savez pas, c'est la partie où elle parle de sa carrière, où elle dit: le catch me manque et je suis très impatiente de revenir. Alors déjà, première nouvelle. Et
Oh mon Dieu.
ensuite, elle dit: est-ce que j'aimerais me battre contre ma sœur? Peut-être, mais j'aimerais revenir en duo comme Bella Twins et affronter Lita et Trish Stratus. Alors, déjà,
D'accord.
Brie Bella revenant à la WWE, est-ce que c'est une mauvaise nouvelle? Et est-ce qu'elle ferait de l'ombre à sa sœur qui... Alors, c'est juste une impression, hein. J'ai pas vérifié à droite à gauche, mais j'ai juste l'impression qu'elle a quand même regagné les faveurs du public smart, on va dire. Les Bella ont toujours eu une grosse popularité chez les enfants, ou même le grand public, mais surtout ceux qui s'intéressent vraiment au niveau de catch et à la technique, etc. Je pense que Nikki Bella était remontée un peu dans les faveurs de tout le monde. Est-ce que c'est voilà. Est-ce que c'est une bonne chose que Brie repense à la VVE?
Non, 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 surtout pas. Parce que, ouais, Nikki Bella, ça fonctionne en ce moment parce qu'on l'a pas vue depuis un moment et puis que, voilà, elle est un peu mise. Elle est pas sur le devant de la scène, quoi. Hein. Elle a pas la ceinture, elle est pas en train de comment dire, de manger le roster complètement. Donc forcément, quand tu es un peu mis de côté, un peu moins sous les projecteurs, tu reprends un peu de popularité auprès du public, surtout Smart, surtout qu'elle fait pas mal d'efforts, elle, pour être convaincante dans le ring. Brie Bella, c'est pas vraiment ce qu'on a envie de voir maintenant dans la division féminine. Enfin, moi, je pense, hein, ça m'intéresserait pas du tout de la voir revenir, surtout si c'est pour affronter Trish Stratus ou Lita, merci bien. Non, franchement, qu'elle reste où elle est, c'est très bien, hein. On n'a pas besoin d'elle, hein. Tu vois? Tu voulais la revoir, toi?
Non, 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 pas du
Bon.
tout.
Rassure-moi.
Le truc que tu dis sur Nikki parce qu'elle est en retrait, quoique, enfin, on la voit quand même quasiment toutes les semaines. Mais le truc, c'est que Nikki Bella, quand elle est revenue, je trouve qu'elle, enfin, ça se voit, elle a bossé et son petit John a dû quand même la pousser à étoffer son moveset. Alors bien sûr, ils vont piquer des trucs à droite à gauche, mais je trouve que Nikki Bella a fait quelques matchs vraiment vraiment sympas et plus du tout dans le style justement des Bella Twins avec des tirages de cheveux et des roll-up et des voilà du catch féminin comme il était il y a 2 3 ans. À
Ouais,
part
non, clairement,
hors de
là, c'est ce qu'on
AJ
veut.
et
Mais
mince.
déjà, avant de quitter, elle avait fait plutôt un bon match contre Charlotte à l'époque. Sur la fin de son règne, c'était plutôt pas mal ce qu'elle faisait. Après, imagine, elle serait arrivée là et elle aurait gagné la ceinture, elle aurait pris le spot de Becky Lynch. Je pense que son retour, il serait passé autrement, quand bien même elle aurait les mêmes qualités athlétiques. Là, ça va bien parce qu'elle a laissé quand même le spotlight à Bikini. Sinon, elle se serait fait pourrir, je pense.
Ouais, et là, ce qui m'irait bien, c'est après le règne de Nikki, Becky, je sais pas combien de temps il va durer, mais si ensuite il transitionne vers Alexa Bliss, bah une rivalité Nikki Bella Alexa Bliss aussi, ça me dirait bien. Le seul truc, c'est voir si enfin elle s'améliore au micro, parce que c'est quelque chose qu'ils ont jamais vraiment réussi à tenir, Nikki et Brie le micro et quoi d'autre. Donc du coup, ouais, le retour de Brie Bella, pour moi, c'est une mauvaise nouvelle pour elle, en fait, pour Nikki,
Ouais,
pour la
ouais.
WWE en général, parce que si elle revient en Bella Twins, déjà ça va pas être possible parce qu'il n'y a pas de tag team de filles, donc
Ouais, ça sert à rien, c'est du déjà vu.
Et surtout qu'on revienne pas à l'époque où on faisait des tag teams à partir de n'importe quoi. Il y avait seulement les Bella Twins comme vrai tag team et le reste c'était alors ce soir ça sera truc et truc contre les Bella Twins ou truc et truc et c'était ça servait à rien parce que de toute façon il y a pas de ceinture féminine de tag team. Donc voilà. Brie, reste chez toi, profite de ton argent s'il te plaît.
Fais du tricot, va jouer aux
Non,
cartes,
mais
t'as
on va
plein
pas
de choses à
partir.
faire.
Non,
Hein.
mais j'ai essayé d'être pas trop machiste.
Bah, jouer aux cartes, c'est pas macho.
Voilà, je joue aux
Parce que c'est une
cartes.
retraitée, c'est
Je
tout.
pense qu'elle a autre chose à faire que
Bon.
jouer aux cartes. Allez. News numéro 5. Comme d'habitude, je garde un peu le gros morceau pour la fin. C'est plutôt une news qui est tirée des shows weekly et plutôt un petit débat qu'on va avoir. Lors du SmackDown du 8 novembre, Daniel Bryan a dévoilé que les dirigeants de Monday Night Raw, donc Mick Foley et Stephanie McMahon, ont accepté de mettre en jeu la division Cruiserweight à Survivor Series le 20 novembre avec un match Brian Kendrick contre Kalisto. Un accord qui répond au challenge lancé par Dolph Ziggler, le champion intercontinental de SmackDown. Qui va défendre donc sa ceinture contre Sami Zayn, au risque donc du coup de faire perdre la ceinture au show bleu. Alors, croit-on vraiment à un changement de roster pour les cruisers et avec le nouveau show 205 Live 205 qui arrive et qui sera diffusé juste après SmackDown donc le 29 novembre. Est-ce que la WWE est en train de reconfigurer la place des cruisers ou alors ils installent juste le doute, ils profitent de finalement des circonstances pour installer le doute. Est-ce que tu y crois, toi, ou pas?
C'est pas impossible qu'ils passent les cruisers à SmackDown, hein, tu me diras, parce que par rapport aux enregistrements, etc., ça sera peut-être plus simple pour eux d'avoir les cruisers à SmackDown et de faire l'enregistrement de leur nouvelle émission derrière. Après, qu'on était parti sur le principe que c'était exclusif à Raw, si au bout d'un mois tu les fais déjà basculer à SmackDown. C'est encore bien parti pour mettre en valeur le truc. Et puis il y a plus besoin des cruisers à Raw, même si c'est quand même mal embarqué leur histoire, c'est toujours mal placé dans le show. Ouais, on pourrait partir sur un. Mais tu peux pas envoyer la ceinture intercontinentale à Raw. Tu peux pas switcher les deux, parce que tu auras le titre US et le titre intercontinental à Raw.
Ouais,
Et plus rien à
ça c'est ce qui
SmackDown, hein.
c'est
Ça me paraît peu.
je pense que c'est l'argument le plus valide pour se dire que ça va pas changer de roster parce que la ceinture intercontinentale, quoi qu'on en dise, c'est triste pour les cruisers, mais la ceinture
Voilà.
intercontinentale
Ah, et
vaut
puis
bien plus que la division des cruisers, quoi.
c'est ça. Ouais, et puis si tu mets déjà la ceinture Cruiserweight dans SmackDown, donc tu auras des matchs Cruiserweight dans SmackDown, et après ils font l'enregistrement de leur émission spéciale Cruiser, ça va faire beaucoup pour les gens qui sont venus, je pense, hein, là, ça fera trop de Cruiserweight. Ouais, donc je pense que non, ça va s'arrêter à Survivor Series alors dans ces cas-là.
Mais au sujet des cruisers à Raw, l'autre chose qui fait, je pense que ça s'installe pas bien aussi, c'est que le SmackDown en fait a vraiment un bon équilibre, enfin d'après la majorité des gens que je vois sur les forums et tout ça, SmackDown a vraiment un bon équilibre parce qu'il privilégie vraiment le récit des feuds au match. Généralement, il y a des matchs, mais ils sont courts, ils sont espacés, et donc voilà, on n'est pas à l'usine, quoi. Et le truc, c'est que je pense les cruisers se feront jamais une place à Raw si Raw continue de faire match, 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 un petit segment, match, match, match. Je trouve vraiment, finalement, j'ai réalisé ça juste cette semaine là, en repensant à Raw. Me dire, il y a trop de matchs en fait à Raw. Je sais pas
Ouais.
si toi t'es d'accord, mais je trouve il y a trop. Finalement, c'est un peu con, mais il y a trop de catch. Il y a trop de matchs et du coup les cruisers ils arrivent. Alors quand ils sont en ouverture ça passe, mais si tu mets un match de cruiser au milieu ou au trois quarts, les gens ils ont déjà vu 3-4 matchs. C'est trop. Alors que les cruisers, justement, c'est le catch pur, sans storyline pour l'instant, avec très
Ouais.
peu. Donc,
Mais ils veulent toujours faire un segment en ouverture d'Euro, hein, visiblement pour la première heure. Il faut que t'as souvent Roman Reigns qui vient en début de show ou t'as Stephanie McMahon. Moi je le ferai, moi je mettrai les Cruiserweight direct en entrée pour la première heure. Et puis après tu passes aux choses sérieuses dans la deuxième heure. Moi
oui, une courte
ça me paraît plus
introduction.
logique. Voilà, comme ils faisaient dans le temps, WCW Nitro, ça fonctionnait beaucoup mieux. Hein. T'as les cruisers qui arrivent, ils commencent à chauffer la salle, et puis après tu peux rentrer dans les grosses histoires. Tu peux toujours placer un petit segment en début de show, en ouverture, histoire de hein, d'expliquer un peu les tenants, les aboutissants de la soirée. Et puis après, voilà, tu lances du catch pur en entrée de jeu. Après tu balances une heure où t'as des segments, des trucs comme ça. Et puis j'aime bien l'idée d'avoir des gros main event comme on a à Monday Nitro quand même ces derniers temps, parce que généralement c'est vraiment d'un bon niveau les main event, mais ça arrive après 2h30 de show, donc forcément tu peux vite passer à côté du truc. Mais clairement, ouais, là, c'est sûr que la place des cruiserweight dans le show d'Euro, ça va pas, et qu'effectivement, au niveau des dosages dans Monday Nitro, c'est délicat parce que t'as beaucoup de matchs et puis t'as souvent des segments qui sont trop longs et redondants, quoi.
C'est, ouais, j'ai l'impression que leur construction, en plus, ces derniers temps, c'est vraiment deux gros blocs. À chaque fois, il y a, enfin, deux gros blocs de micro. C'est l'introduction, à chaque fois un quart d'heure. Et au milieu du show, l'autre, du coup, c'est Tag Team cette semaine. L'autre gros morceau, 10-15 minutes. Et du coup, ouais, c'est pas super réparti. Après, vous me direz aussi, c'est plus difficile, je pense, d'écrire pour, enfin, d'écrire des segments pour un show qui dure 2h30, enfin 3h en fait, si on enlève les pubs. Enfin, je veux dire, si on compte les pubs plutôt, parce que le show continue pendant les pubs, donc forcément. Enfin, comparé à SmackDown. Ouais, non, pour moi, il y a vraiment, ouais, il y a un souci d'équilibre entre les deux, mais est-ce qu'ils ont les moyens de, ouais, est-ce qu'ils ont le moyen d'écrire plus? Et puis en plus, pour écrire plus, il faut écrire quelque chose d'intéressant, mais il faut pas faire avancer trop vite les choses. Donc voilà,
Après, ils ont un paquet de scénaristes, hein, mais
ouais.
généralement, c'est Vince McMahon qui met le holà à toutes leurs idées, et puis ils restent toujours un peu sur les mêmes recettes qu'ils ont depuis des années. Mais maintenant, regarde, tu fais 1 heure de Cruiserweight d'entrée de jeu, il te reste plus qu'une heure et demie de show à booker avec un scénario, etc., etc. Donc
Oula,
c'est
ouais,
déjà
mais une
plus
heure de
simple à gérer.
cruiserweight d'entrée de jeu, ça me
Bah,
paraît
t'as
beaucoup.
assez dans le roster,
Non, mais
voilà.
je veux
Hein.
dire, tu peux pas
Bah, tu mets,
mettre un
voilà, tu.
bloc d'une heure de cruiser aux gens au début du show, ils vont tous partir. Ça
Je
va.
suis pas sûr. Ouais, tu peux rajouter un peu de low card au milieu, et puis
Ça marcherait.
un segment au milieu, vite fait, genre de 5 minutes, mais.
Ça marcherait si. On vous souhaite une très bonne semaine pleine de catch et à bientôt.
Ciao, ciao. Quand t'as une demi-heure de
Pour faire
Stéphanie
l'intro.
McMahon en début de show, moi je comprends pas que les gens restent, hein.
Ouais.
Mais bon.
Enfin bon. Donc voilà, c'était les news de la semaine. N'hésitez pas à nous signaler dans les commentaires si vous avez d'autres news qui vous ont marqué dans la semaine. Qu'est-ce que vous avez pensé des sujets qu'on a abordés. Donc je te remercie Ringside d'être venu.
Mais je t'en prie.
Et puis, donc n'hésitez pas à nous écouter sur iTunes, sur Mixcloud et sur YouTube. Un pouce vert, un commentaire et on vous fait des très gros bisous et on vous souhaite une semaine pleine de catch et de blagues sur Donald Trump. Doute.
Hey, ciao, ciao.